où ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Vous l'avez chanté comment ça? Puissance est sans pareil. Et moi ce matin, je voudrais vraiment revenir vraiment là-dessus. Je n'ai pas prévu, peut-être, je ne savais pas qu'on chante un chant comme ça, je ne savais pas plein de choses. Et moi aussi, en parlant de bienveillance, ce matin, vous savez, on a l'habitude de prier avant le culte. Et
vous m'entendez de toute façon, hein, je parle assez fort. Et c'est quelque chose de chouette, parce que vraiment, le Saint-Esprit, bien sûr, il nous a déjà mis en communion avec tous ceux qui parlent, et même avec vous qui êtes dans le silence. Ça, c'est clair, il nous met en réseau. J'ai un message que j'ai préparé, mais toujours, c'est toujours, bien sûr, dans la douleur. Et on sent cette faiblesse qui est toujours là quand on est là à vouloir parler de la part du Seigneur. Et j'étais encouragé parce que Georges a prié et il a cité un verset d'Ézéchiel 11, qu'il va transformer, hein, il va changer nos cœurs de pierre en cœur de chair pour faire en sorte qu'on puisse recevoir cette parole. Et c'est un passage justement que j'avais prévu en plus de lire avec vous et de partager avec vous. Et vous savez, j'ai donné il y a plus d'un mois un message sur Pâques, c'était Pâques. Et puis, donc il y a la semaine dernière, c'était Pentecôte et je voulais parler ce matin de Pentecôte et en particulier du Saint-Esprit. Mais je suis resté un peu entre Pâques et je suis toujours un peu dans ces 50 jours, moi, vous savez, qui ont séparé la Pâques et la Pentecôte. Et je pense que je reviendrai un peu plus en détail après, vraiment sur le Saint-Esprit et son baptême, et même si je vais peut-être un peu aborder ce matin. Et je voulais revenir avec on a parlé de cette grâce ce matin. On a parlé. Que par nos propres forces, on ne peut rien, que tout nous vient de Christ. Et c'est grâce vraiment à ce que Christ a accompli à la croix qu'on peut être là, que ce nom victorieux, c'est quelque chose, et que sa puissance est sans pareil. Et cette puissance, elle nous est maintenant à nous, elle nous est là, à portée de main, elle est en nous, par le Saint-Esprit. Et grâce à la résurrection de Christ, finalement, nos vies, elles sont nouvelles. Et nous pouvons être libres. Mais libre de quoi? Il y a une chose qui nous tient, c'est le péché. Et nous pouvons être libres de ne plus écouter le péché. Et vous savez, j'avais ce passage de Caïn. Quand Dieu lui parle, il dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Et ça, ce passage, il résonne depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois en moi, parce qu'il est à la genèse, là, de la création. Et il est toujours intéressant de voir ce qui se passe à la genèse de l'histoire. Juste un peu quelques exemples. Quand il y a un pont qui s'écroule, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a eu un accident, le pont s'écroule. On va analyser, on va regarder les plans, on va regarder ce qui s'est passé, comment ont été conçus le pont pour voir et analyser ce qui s'est passé. Même si je prends l'exemple de nous-mêmes, quand vous allez voir un psychiatre, parce que vous êtes fragile, vous avez besoin d'être soulagé, qu'est-ce qu'il fait? Il va loin dans votre enfance, il va chercher à aller loin, à la genèse de votre histoire, pour voir quelles sont les blessures peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ces blessures se sont accumulées? Et moi, je pense que c'est important de voir ce qui s'est passé à la genèse de l'histoire de l'humanité pour expliquer cette histoire du péché et de cette séparation avec Dieu. Et je pense que la genèse, et particulièrement les 11 premiers chapitres, c'est ces chapitres-là qui peuvent nous éclairer. Et nous savons qu'à la base de l'humanité, il y a eu bien sûr Adam et Ève. Et à cause de leur désobéissance, il y a eu la chute. Et outre les conséquences vraiment bien connues, on sait que la femme, elle fera des enfants dans la douleur, que l'homme devra travailler dur et que le serpent, il errera maintenant dans la poussière. L'autre conséquence qui est la plus profonde et la plus blessante, c'est que l'homme et la femme ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ont été chassés du jardin. Et c'est finalement cette blessure-là que l'humanité a le plus de mal à s'en remettre. Et puis justement, quelques temps après, on voit Abel et Caïn. Et Abel et Caïn, ils ont tous les deux à cœur de faire une offrande à Dieu. Mais pourquoi ils font une offrande à Dieu? Ils font une offrande à Dieu pour tenter quelque peu de rentrer, de chercher cette présence divine qui leur manque tant. Et je vous propose de lire, c'est dans Genèse 4, versets 3 à 7, le passage qui va être affiché. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne reporta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. J'insiste, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, « Pourquoi es-tu irrité? Mais pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Voilà, là on voit qu'il y a deux approches. Celle de Caïn, il faut souligner que Caïn, là, c'est le plus premier, hein, c'est le plus prompt à vouloir faire une offrande à Dieu. C'est le plus prompt à vouloir entrer dans cette présence de Dieu. Et en plus, c'est lui qui a entendu peut-être le mieux le message de Dieu qui lui dit « Mais l'homme devra travailler dur la terre. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler dur la terre. Il va répondre, il va travailler dur pour finalement amener le fruit de son travail. Et puis on voit Abel, ben, qu'est-ce qu'il fait? Lui, puis il se contente de récolter les fruits de la nature. C'est naturel que les animaux engendrent d'autres animaux, et ainsi de suite. Et il amène ainsi, bien sûr, il y a cette idée de sang, mais il amène quelque chose qui est gratuit. Et Dieu, là, nous surprend. Il nous surprend. Mais là, dès le début de l'histoire de l'humanité, que fait Dieu? Il nous donne ce message. Ce message que ce n'est pas par nos propres œuvres que nous pouvons sauver, on l'a dit, c'est par la grâce. Ce n'est pas par nos propres efforts qu'on peut plaire à Dieu, mais c'est simplement par cette foi, en nous présentant tels que nous sommes, avec la simplicité. Et 1 Jean 3, verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu peux l'afficher? Il nous dit de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et il nous explique pourquoi. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Moi, ça m'a interpellé. On voit Caïn, le mal qu'il s'est donné, ses œuvres étaient mauvaises. Et Caïn, comme peut-être tout un chacun, on a du mal à accepter ça de la part de Dieu. On a du mal à accepter que nos œuvres peuvent être mauvaises alors qu'on veut faire le bien. Et puis, il pense aussi finalement être un peu comme Dieu, la capacité de faire le bien. Et au lieu de se remettre en question, on voit qu'il s'est endurci. Et finalement, je pose la question 6000 ans après. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que l'humanité a vraiment compris cela? Et là, c'est captivant de voir comment la parole, encore, elle nous donne ces quelques détails. Caïn fut très abattu, très irrité, son visage fut abattu. Et vous savez, nous sommes tous des descendants de Caïn. Nous avons dans nos gènes, là, cette irritabilité et cet abattement. Non seulement les hommes, nous, on a hérité de Caïn cette fausse croyance que nous pouvons plaire à Dieu par nos propres efforts, mais on a hérité aussi de Caïn son irritabilité et son découragement. Et on voit les conséquences, les ravages que ça fait dans l'humanité. Oui, la parole, elle est précieuse parce qu'elle rentre là dans les détails de l'origine de nos fonctionnements internes ou même communautaires, mais elle est encore plus précieuse parce qu'elle apporte une solution. Elle veut sortir, et c'est le plan de Dieu, on l'a dit, il veut sortir cette humanité entière de cette ornière dans laquelle elle est engagée. Jude 1, verset 11 dit « Malheur aux hommes qui se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes, car ils ont suivi la voie de Caïn. » Oui, il est très fort ce verset, car il est question là d'une malédiction, dans le fait de vivre dans cette voie de Caïn qui se borne finalement à ne connaître que le naturel, à connaître que les choses naturellement. On connaît les choses avec nos cinq sens, et puis ça nous suffit. Et vous savez, il y a combien d'hommes s'interrogent sur l'origine et le sens de la vie, mais combien se sont adressés au Créateur. Ainsi, on ne doute pas qu'une montre, qu'une voiture, soit le résultat d'une conception qui est réfléchie, mais on ose affirmer que l'univers et nous avec, on est le résultat d'un hasard de Big Bang. Au début de l'Épître aux Romains, Paul y parle que de ces gens-là qui ont changé la vérité en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et 2000 ans après, on fait ce même constat. Ouais, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste, s'il n'y a pas une autre lumière plus puissante encore qui vienne nous éclairer, qui vienne à nos rencontres. Et c'est pour ça que Christ, la parole vivante, la lumière du monde, est venu dans ce monde pour éclairer vraiment nos ténèbres et nous détourner de cette voie sans issue qui est celle de Caïn. Alors oui, on est des descendants de Caïn. Oui, on a en nous ces gènes d'irritabilité et d'abattement. Mais Christ est venu. Christ est venu. Et Romains 9, verset 19 nous dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Voilà, l'héritage du péché a entraîné l'humanité entière loin de Dieu. Et l'héritage de Christ vient nous ramener maintenant dans sa proximité. On a chanté ce chant où le voile s'est déchiré. Mais oui, quand l'obéissance de Christ à la croix a fait que le voile s'est déchiré, et il nous rend accès maintenant à cette lumière. Il n'y a plus de limite. Il nous rend accès maintenant à un souffle du Saint-Esprit qui vient et qui peut que nous embraser. Et à l'image un peu du levain, l'exemple que j'avais donné la fois dernière, qui ne peut pas se développer en contact de l'oxygène, le péché ne peut pas se développer en contact du Saint-Esprit. Et cette parole de Dieu qui est donnée à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Oui, toute cette parole maintenant, elle prend du sens, elle prend tout son sens maintenant. Car par l'œuvre de Christ à la croix, Romains 6, versets 5 et 6 nous dit que nous sommes une même plante avec lui. Nous sommes comme lui. Et on a été crucifiés avec lui afin que ce qui est le péché en nous soit réduit à l'impuissance. Ça veut dire, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et pour en revenir à cette grâce, un peu plus loin dans ce passage, il est dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Donc dominer sur le péché n'était peut-être pas possible pour Caïn, mais ce l'est devenu pour nous, grâce à ce que Christ a enduré à la croix. Mais ces versets-là de Romains, ils ne nous disent pas que le péché est éradiqué dans nos vies, mais ils précisent que par la mort à la croix, la relation de lien, cette relation d'esclavage que nous avons naturellement avec le péché, cette relation-là, elle est brisée. Le péché, il est bien là, mais il n'a plus de pouvoir sur nous. Alors ça, on comprend bien par le salut de Christ que à la croix, Christ a tout accompli. Donc, le jugement de nos crimes, de nos péchés qui méritaient la mort, il a été enduré par Christ. Et ça, cette conséquence, elle n'est plus pour nous. Mais dans le plan de Dieu, ça ne s'arrête pas là. On peut être aussi concrètement délivré de l'esclavage du péché. Parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui vient après et qui peut nous délivrer, il peut nous être donné pour nous rendre cette liberté de dire non au péché. De non, ça veut dire dans cette spirale de péché. Mais ça, on a du mal à l'entendre, parce que ça, c'est du spirituel. Et nous, est-ce qu'on continue à réagir avec nos cinq sens, avec notre sagesse? où est-ce qu'on veut rentrer dans ce domaine-là et dans cette puissance, comme on l'a dit, ce nom puissant, ce nom victorieux, cette puissance sans pareil qui fait que, à l'intérieur de nous, notre esprit peut être changé. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous vient en aide. Et c'est pour ça aussi que la Pentecôte, finalement, a son importance. À la Pâque, Christ a payé de sa vie pour nos péchés, et donc il n'y a plus de condamnation pour nous. Et à la Pentecôte, on reçoit une puissance de la part du Saint-Esprit. Et ça, c'est le Seigneur qui l'a promis. Hein. Dans Actes 1, verset 8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Oui, pour arriver à vivre notre vie chrétienne, eh bien, on a besoin de cette puissance de Saint-Esprit. Ne comptez pas sur d'autres choses. Parce qu'en nous, on n'a pas de force. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été envoyé. Car nous avons besoin d'un nouveau souffle. Et un nouveau souffle qui ne peut pas venir de nous. Un nouveau souffle qui est seulement divin. Et qui nous transmet une puissance, seule puissance qui nous rend capables de nous libérer de l'esclavage du péché. Pour donner une image, c'est un effet un peu similaire, vous voyez, entre une voiture, même voiture, vous mettez sans turbo ou avec turbo. Que fait le turbo ? Arrivé à un certain moment, bien sûr, il faut sortir des bas régimes parce qu'il ne peut pas s'enclencher, mais vous montez un peu en régime, il va enclencher le turbo, qu'est-ce qu'il fait ? Il va comprimer un peu plus l'oxygène, comprimer l'air, et il va améliorer finalement la pression de combustion, il va améliorer le rendement du moteur, et puis vous sentez la voiture qui va dégager parce que l'effet du turbo est là. Moi je pense que l'effet du Saint-Esprit c'est ça. L'effet du Saint-Esprit nous fout le turbo. Il nous fait une turbo, pourquoi ? Et pourquoi on a besoin de cette puissance ? Le Seigneur il savait pourquoi on avait besoin de cette puissance. Parce que quand il nous faut sortir du mauvais pas, quand il faut monter les routes escarpées et qu'il faut résister au vent contraire, il nous faut la puissance. Et la puissance du Saint-Esprit, elle nous sert à résister à toutes ces autres puissances qui sont contraires à la vie du chrétien. Et d'après la Bible, moi j'en vois trois de puissances contraires. Il y a la puissance de Satan, la puissance des ténèbres et la puissance du péché. Alors je ne vais pas parler ce matin, on n'aura pas le temps de parler de la puissance de Satan et la puissance des ténèbres, mais je voulais parler encore de la puissance du péché. Et 1 Corinthiens 15, verset 56, je crois, dit que la puissance du péché, c'est la loi. C'est troublant, c'est peut-être un peu compliqué là où je veux en venir, mais je veux en revenir au fait, ressouvenez-vous, gardez en retrait derrière l'histoire de Caïn. La puissance du péché, c'est la loi. Et Romains 7, 7, il dit, Paul, je n'ai connu le péché que par la loi, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. On est ainsi fait, nous, en tant qu'hommes. On a une loi, on a un commandement, on a une limite. Qu'est-ce qu'on fait ? Tous ces éléments-là activent une folle envie de désobéir. Et c'est ça le péché. Et donc le péché, cette loi, donne finalement une puissance au péché qu'on n'arrive pas à contrôler humainement. Et je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais vous suivez la suite de Romains 7, Romains 6, il parle de ça. Il dit qu'on est vendu au péché, que Paul ne peut pas faire comme nous, on ne peut pas faire le bien que l'on veut, et par contre on fait le mal que l'on est. On a bien cette volonté de faire le bien, mais on n'en a pas le pouvoir. Et tellement la puissance du péché est forte. Et puis alors comment on va faire ? Comment on va faire ? Et c'est pour ça que je veux revenir à Caïn. Caïn qui était irrité, un peu des fois comme nous, là, quand on est devant ça, abattu, parce qu'il était convaincu d'avoir obéi au commandement de Dieu, alors que Dieu, lui, n'avait pas honoré son geste. Et dans son abattement, Jésus ne le lâche pas. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui donne encore un autre commandement. Domine sur le péché. Ben, je crois que là, Caïn s'est fermé. Il est resté irrité, abattu. Domine sur le péché, ce n'est pas possible pour lui. Et là, il s'est passé quelque chose de très important entre Dieu et Caïn à ce moment. Une irritation et un abattement tel que cette parole de Dieu, elle était inaudible pour Caïn. Et finalement, Caïn se laisse totalement dominé par le péché. Et il nous entraîne, il entraînait avec lui toute l'humanité, toute sa descendance, et dans un schéma qui était basé, qui est basé maintenant sur le rejet de la parole de Dieu, le rejet à ses commandements, le rejet à ses préceptes. Et puis si on continue un peu l'histoire de la Bible, bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y a quelques héros qui ont entrevu cette possibilité, mais il n'était pas possible avant que Christ vienne et que le baptême du Saint-Esprit vienne aussi pour nous libérer de l'esclavage du péché. Les hommes étaient tellement même irrités contre Dieu qu'ils ont crucifié son Fils. Et là, dans cette solution, quelle est la solution ? Dans cette situation, quelle est la solution donc que Dieu envisage pour calmer notre irritation, pour calmer notre abattement ? La seule solution, c'est quoi d'après vous ? C'est envoyer un consolateur. Qui peut mieux qu'un consolateur venir là à notre écoute, venir là en nous, au plus profond de nos blessures, venir calmer notre irritation et notre abattement. Et c'est Jésus, bien sûr, qui en parle le mieux dans Jean 14 et Jean 16. Il présente le Saint-Esprit comme étant le consolateur. Ouais, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous consoler de notre irritation et de nous délivrer de ce comportement de rejet de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, ce rejet que nous avons hérité de Caïn. Et dès notre acceptation du salut, le Saint-Esprit, par sa puissance, il incline tout notre être à dominer le péché. Ce péché-là qui nous colle à la peau. Et justement, ce passage, comment cela c'est possible ? C'est ce passage d'Ézéchiel 11. Voilà, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voilà, l'objectif premier, là, vraiment du Saint-Esprit, donc c'est bien sûr de nous réconcilier avec Dieu et avec ses commandements. Et ça, c'est possible si nos cœurs endurcis sont transformés. Et ça, c'est le Saint-Esprit encore qui le fait. Ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas. Et cette parole qui était inaudible, qui était impossible à entendre, là, elle est possible. Elle est reçue, elle peut être reçue. Et on est donc au milieu d'une humanité qui est irritée, abattue, j'insiste, et toujours plus en rejet de la parole de Dieu. Alors peut-être même plus qu'avant, parce qu'il y a tellement de monde, plus qu'avant encore il y a du monde sur cette terre, et il y a encore plus qu'avant de gens qui sont irrités, abattus. Et tous ont besoin d'un consolateur. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit descend sur nous, pour avant tout faire de nous des êtres consolés, sensibles à ses enseignements, et porteur d'une vie nouvelle. Là, il n'est plus question de chercher par nos propres forces à vivre des prétextes anciens, mais de vivre par le Saint-Esprit, ce désir nouveau d'être enseigné directement par lui et de s'entendre rappeler directement par lui ce que le Seigneur a dit. Vous voyez ce consolateur ? Que Caïn, malheureusement, n'a pas pu avoir. Il s'est fermé à cette possibilité de dominer le péché. Ce consolateur vient nous donner et il nous ouvre cette parole. Et cette loi-là, qui était finalement cette puissance du péché, c'est pour cela qu'on reçoit le Saint-Esprit, une nouvelle puissance, pour aller contre cette puissance du péché qui est la loi. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre cela, mais c'est pour ça que je veux lire encore deux passages qui expliquent peut-être mieux que moi. Romains 7, verset 6 qui dit « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Et 2 Corinthiens 3, verset 6 qui dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Alors, bien sûr, Paul ailleurs parle de l'importance de la parole. Mais là, il est question de ne pas se laisser retenir par le texte écrit seulement. C'est pour cela que le Saint-Esprit a un rôle tout aussi important de nous guider, de nous enseigner. Et c'est pour ça que nous devons nous mettre maintenant à son écoute. Parce que le texte écrit, il parle d'abord à notre âme, par notre intelligence. On comprend par notre intelligence, par notre sagesse. Mais le Saint-Esprit s'adresse directement à notre esprit. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux choses, bien sûr. Mais nous, dans notre logique, dans notre façon d'être, on doit fonctionner maintenant dans un esprit nouveau et pas dans un texte de lettres qui a vieilli. Comment employons-nous la parole ? La lettre, elle tue. L'esprit vivifie. Et c'est pour ça aussi que les dons de l'Esprit, on viendra peut-être plus tard, mais les dons du Saint-Esprit ont vraiment leur importance. Et c'est pour ça aussi qu'il faut y aspirer. Parce que pour la plupart, ces dons-là, ils échappent à notre intelligence. Et c'est pour ça que si vous avez besoin de consolation, ben il faut aller directement à la source, au consolateur. Alors oui, on peut aller voir plein de conseillers. Je ne dis pas ça. Mais pourquoi ne pas aller directement à la source, à celui qui nous a créés, qui connaît, et qui saura nous consoler. Et moi, je vous donne un conseil, c'est ce que j'ai éprouvé. Vous allez dans votre chambre, vous priez. Alors, c'est facile. Mais je vous encourage aussi à commencer, je vais aller un peu plus loin, à prier en langue. Je vous encourage à aller chanter en langue. Allez vous promener dans le champ. Déconnectez votre intelligence. Déconnectez votre sagesse. Déconnectez. Mettez-vous simplement en contact avec le Saint-Esprit. Prier en langue, c'est simplement s'adresser en esprit, que le Saint-Esprit s'adresse en esprit à nous. Alors oui, ça nous échappe, on a du mal à comprendre. Mais c'est biblique. Et là, on recevra la consolation directement du Saint-Esprit. Car celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Oui, on ne va rien comprendre, mais craignez rien. Combien de fois la parole nous dit « ne crains rien » Mais laissez justement le Saint-Esprit agir. Qu'est-ce qu'on a à craindre du Saint-Esprit ? Car lui sait parfaitement ce qu'il a à faire avec nous. Alors en acceptant le salut offert par Christ, on a embarqué avec nous le Saint-Esprit. On l'a embarqué avec nous. Alors est-ce que on veut lui faire confiance ? Est-ce qu'on veut marcher dans cette dynamique-là ? Est-ce qu'on veut aller pleinement dans ce truc-là ou on veut rester toujours avec la maîtrise comme Caïn finalement a voulu garder sa maîtrise. Voilà, moi je vous encourage vraiment à essayer de pousser, mais de pousser loin, de ne pas vous mettre des limites. On voit que ça a pris du temps, allez, 4000 ans là, avant que Christ vienne, entre Caïn et Christ. 4000 ans. Parce que je pense que l'homme a le cœur dur. Mais le Saint-Esprit, il est là pour nous donner ce cœur de chair. N'attendons pas encore une année ou deux ou trois. Laissons-nous attendrir vraiment par le Saint-Esprit. Et je voulais finir avec ce dernier verset, parce que Romains 8, verset 15. Ouais, alors, moi, je vous encourage, lisez les 5, 6 fois, 10 fois à la suite, 5, 6, 7, 8 de Romains, parce que
parce qu'ils sont riches, ils parlent à ça, à cette loi qu'on veut toujours s'attacher à la loi. Et on est sauvé pas par la loi, mais par la grâce. C'est la grâce qui nous sauve. Et Romains 8, verset 15, dit, si vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Et là, excusez-moi, j'ose rajouter deux mots à la parole de Dieu, je dirais crainte, pour être encore dans l'irritation et dans l'abattement. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père, Papa, Papa. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend lui-même à notre esprit. L'Esprit ne rend pas ailleurs témoignage, il rend à notre esprit. Et ça, peut-être ça nous échappe. Ça nous échappe complètement, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Laissez rendre témoignage l'Esprit, le Saint-Esprit que nous avons. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes cette lumière du monde. Nous sommes plus loin dans le chapitre 8, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Cette puissance, ce nom victorieux qu'on a chanté, cette puissance sans pareille, elle est maintenant à nous, grâce à la présence du Saint-Esprit. Vous êtes plus des moins que rien. Vous êtes des fils de roi, vous avez cette capacité, on a tous, et moi je veux le dire aussi pour moi, à dire non à l'esclavage du péché. Et moi je vous donne encore un conseil. Quand vous voyez que le péché vient, oui, allez, priez en langue, parlez, chantez en langue, commencez à chanter en langue. Mais aussi, osez vous adresser, parce qu'il y a l'ennemi qui n'est pas bien loin aussi. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Satan, laisse-moi. Lâche-moi, mais osez. Vous êtes vainqueurs, les amis. Vous continuez à vivre dans cet esclavage, vous voulez briser cette chaîne, que le Seigneur brise cette chaîne. Combien on voit dans nos vies, des fois, où on laisse les choses. Non, brisez cela, et vous avez ce pouvoir au nom du Seigneur, ce nom victorieux. Et moi, je remercie encore le Seigneur qui a dirigé ce chant. On l'a chanté, peut-être on pourrait encore le chanter, j'en sais rien, mais ce nom victorieux, il impacte votre présent. Voilà, je voudrais encore remercier, louer notre Dieu pour son œuvre. Oui, merci notre Dieu. Merci à toi Seigneur, merci à toi Saint-Esprit, parce que ouais, tu es venu et tu es là même en nous, chacun de nous qui t'avons accepté. Et c'est vrai que tu ne veux pas faire de nos vies, tu en as marre de nous voir irrités, abattus. Et tu veux venir nous consoler. Tu veux encore venir à notre rencontre ce matin. Tu veux venir nous faire du bien. Oui, Seigneur, merci de nous révéler par ta parole, de nous révéler par ton Saint-Esprit le chemin dans lequel tu veux nous faire marcher. Et oui, je veux te louer. Je veux proclamer encore ta puissance. Je veux proclamer ta gloire. Je veux que ton règne vienne là sur nos vies, chacun de nous. Tu vois, tous là, tu as un projet pour nous, tu as une guérison, tu as une bénédiction et tu veux la faire reposer. Ouais, tu nous dis qu'il n'y a rien qui est trop lourd, trop dur pour toi pour que tu puisses nous venir en aide. Et ce matin, Seigneur, je veux que en chacun ici de mes frères et sœurs, cette puissance du Saint-Esprit se révèle. Que ce Saint-Esprit vienne vraiment nous toucher. Viennent nous imbiber, nous imprégner complètement de cette présence et de cette puissance qui vient nous casser ces chaînes et nos liens de l'esclavage du péché. Oui, notre Dieu, merci parce que cette loi maintenant, elle est gravée dans nos cœurs. Merci parce que ta parole, elle devient naturelle. Merci parce que cette parole, tu veux qu'elle soit maintenant active. Tu veux faire maintenant de moi aussi une parole vivante. Tu veux que je brille autour. Tu veux que, et c'est ce plan que tu as pour chacun de nous. Tu veux que nous soyons ces témoins. Tu veux que nous soyons ces pères de miséricorde aussi à notre tour. Père de grâce, tu veux que la grâce coule à travers nous aussi. Oui, Seigneur, tu nous envoies dans ce monde pour bénir. Et nous voulons bénir encore ce matin. Oui, notre Dieu, on te prie pour que tu nous interpelles, tu ne nous rendes pas oublieux de ces choses. Mais que tu donnes cette puissance qui nous met en avant, qui nous met en marche. En notre Dieu, je veux te louer parce que ouais, sans nous, on ne peut rien faire, mais toi, tu es fidèle, Seigneur. Même si on a été loin, oh, combien tu es fort, Seigneur, pour nous ramener, nous rapprocher de toi et faire encore que nous brillions encore plus. Oh, merci, Seigneur, parce que tu, tu, Tu es ce Dieu aussi qui est présent, qui est là, qui nous console. Merci pour ta présence encore ce matin. Merci pour ta bonté. Merci pour ton enseignement et ta parole. Et merci à toi, Saint-Esprit, encore, parce que tu veux nous activer. Tu veux nous réveiller. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen.
On va juste faire les annonces. C'est cool ce que tu as apporté, Pierre. Moi, vendredi soir, je ne savais pas ce que j'allais apporter. Et j'avais des chants, mais je ne savais pas trop les versets que je voulais, dans quel sens je voulais orienter. Et ça match, quoi. Et quand les choses matchent, je crois qu'il faut qu'on dise qu'elles viennent de Dieu. Le programme de la semaine, il y en a pour les femmes, pour les aînés, pour les chanteurs. Il y en a un peu pour tout le monde, même si c'est une semaine un peu léger, pour les jeunes. Je vous laisse regarder ça et noter dans vos agendas. Il y a une chose qu'il faut noter sur vos agendas que vous n'avez pas encore, c'est la date du culte de la Lécherolle qui aura lieu le dimanche. Clément, tu peux mettre le slide d'après. Le dimanche 22 juillet, voilà, c'est ça. Donc le 22 juillet, culte à la Lécherolle. Pour ceux qui ne savent pas, la Lécherolle, c'est un culte. Le culte n'aura pas lieu ici. On se déplace dans la montagne juste après la Faucille, à environ une grosse demi-heure d'ici. Si vous voulez des renseignements, venez me demander, ou venez demander à Manu et Rebecca qui sont là. Donc 22 juillet, culte à la Lécherolle, et on en profite pour rappeler que la semaine d'avant, c'est un peu bizarre, mais le culte non plus n'aura pas lieu ici, mais aura lieu à la salle des fêtes Gaston Laverrière pour la clôture du club d'été. J'ai pas des gens particuliers à vous remettre sur le cœur, mais levons les bras avec ceux qui lèvent le bras parce qu'il y a eu des victoires, pleurons avec ceux qui pleurent parce qu'il y a des difficultés, et serrons-nous les coudes dans la prière, et des fois la prière ça prend une forme humaine aussi, hein. C'est aller entourer les personnes, ce genre de choses. Et en réfléchissant pour terminer ce culte, là, parce que c'est Philippe qui le fait d'habitude, il m'a dit tu le fais, je dis ok je le fais, puis je réfléchissais, je dis il fait lever tout le monde à la fin du culte, c'est quoi cette histoire qui fait lever tout le monde et qui donne un verset? Moi aussi quand j'étais petit je trouvais ça bizarre, et puis bon j'ai réfléchi un petit peu, je me dis après tout quand un professeur rentre dans la salle, par respect, on lui montre son respect, ou le directeur de l'école, en se levant. Je ne suis pas en train de dire que je suis le directeur de l'école. Hein. Quand la reine d'Angleterre elle est rentrée, vous avez vu ça l'autre jour, comment ils se sont tous levés, là, chic, au carreau, comme ça. Et je crois qu'on doit se lever pour rendre gloire à Dieu qui est là. Donc je vous demande de vous lever, si vous voulez bien. Et puis je vais vous remettre juste... Je vous ai parlé tout à l'heure de ce verset qu'on a lu dans Juges 13... Quel est ton nom ? Et l'ange de l'Éternel qui lui répond, il est merveilleux. Vous irez voir, à la fin, il y a un truc incroyable. Et ça match incroyable avec ce que tu as dit. C'est juste avant l'histoire de Samson, juste 13, verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Ça nous rappelle des choses, ça. Elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et là, il y a un verset qui m'a fait marrer. Mais maintenant, je sais pourquoi, c'est Dieu qui nous parle. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Et c'est même marqué le lieu où il l'a agité, à Machané, Dan. Et je me suis dit, ouh, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? J'aimerais bien pouvoir remonter dans le temps et puis regarder ce qui s'est passé à cet endroit-là. Parce que s'il le marque comme ça, il a dû se passer un truc balèze. Mais je me dis, et c'est ça que je nous souhaite pour cette semaine, que l'Esprit de l'Éternel continue de nous agiter, continue de nous libérer, continue de nous vivifier, continue d'être notre consolateur. Amen.